Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA, le rendez-vous des amoureux du ciel du dimanche matin. Alors on est bien content de vous retrouver cette semaine. L'équipe de l'Étoile polaire aujourd'hui est un peu réduite puisque Rémi et Pierrick, qui ont été, disons, n'ont pas été très coopératifs cette semaine, ont été privés d'émission. Et donc on est avec Axel. Non, pas du tout, on les embrasse.
Mais on est content d'être là.
On est content d'être là, voilà. Alors on va dérouler le 62e épisode de l'émission. On va un petit rappel d'abord avec le podcast que vous pouvez toujours aller voir sur le et écouter surtout sur le site de RDIWA, rdwa.fr, émission thématique l'étoile polaire. Avec une grande partie encore des archives pas encore disponibles, mais donc on a déjà les 6 ou 7 dernières émissions qui sont en ligne. Voilà, vous pouvez aussi...
Il y a de quoi écouter, mais il y a de quoi voir aussi.
Il y a de quoi
voir. Sur la page des podcasts, puisque chaque podcast est illustré par une astrophotographie réalisée par Rémi ou moi-même,
tout à fait. Général. De bien belles photos d'ailleurs. Voilà pour ce podcast. On vous rappelle aussi le mail de l'émission astro-rdwa@protonmail.com. Voilà. Si vous voulez nous joindre, si vous voulez venir participer à l'émission aussi, on rappelle notre rubrique Nouvel Oeil. Si vous faites de l'astronomie ou si vous vous y intéressez d'une façon ou d'une autre, justement, quelle que soit la façon, venez nous raconter ce qui vous motive dans l'observation du ciel et comment vous pratiquez l'astro. Voilà pour cette petite introduction générale de l'émission. Alors, cette semaine, le sommaire, on va commencer par quelques actus du monde de l'astronomie. Ensuite, ce sera le ciel ce soir, hein, toujours les constellations et les astres que vous pouvez observer quand le ciel s'obscurcit et que les nuages filent. Et puis, ensuite, on fera une rubrique à braque cette semaine. On va parler un peu de tous ces lieux où l'on peut pratiquer l'astronomie, étudier l'astronomie. Alors, on entend ici astronomie amateur, c'est-à-dire réellement observer soi-même ou faire de la photo, voilà, ou différentes choses. On parle de ce type d'activité, on ne parle pas des observatoires professionnels. Donc, on fera un petit tour, en fait, de différents lieux. Et moi, je vous parlerai aussi d'un endroit qui s'appelle, ou qui s'appelait plutôt, le géospace d'Anienne. Voilà pour ce sommaire. Alors, on commence par les actus. Tiens. Ouais. Là, la semaine dernière, milieu du mois d'avril, il y a un célèbre physicien qui est mort et qui est Monsieur Higgs. Monsieur Higgs, il a eu le prix Nobel dans les années 90 ou 2000, je ne sais plus, parce que en fait, il a une particule qui porte son nom. Ce monsieur, c'était un physicien qui était qui étudiait la physique des particules et donc les constituants vraiment les plus intimes de la matière, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur des noyaux, ce qui constitue les protons, ce qui constitue les neutrons, etc. Et toutes ces particules, en fait, alors que nous, on qualifie d'élémentaires parce qu'en fait, on n'est pas capable... alors, soit parce qu'elles le sont vraiment et qu'effectivement, il n'y a pas d'échelle inférieure dans l'architecture et dans l'organisation de la matière, soit parce qu'on n'arrive pas à voir plus petit et qu'un jour on découvrira que en fait voilà certains bosons sont constitués eux-mêmes d'autres éléments, mais on n'en est pas là. En tout cas, donc là on parle de quarks, voilà, de ce type de particules.
Oui, il y a déjà eu des classements comme ça de particules élémentaires, des choses qu'on appelait des particules élémentaires, puis en fait on arrive à voir plus petit et donc ces nouveaux constituants qui deviennent les nouvelles particules élémentaires.
Alors, moi, en fait, je pense que je consacrerai une prochaine émission à ce sujet. Donc, on ne va peut-être pas trop s'étendre aujourd'hui parce que c'est assez complexe et c'est très, très théorique. Même si c'est basé, il y a quand même tout un tas d'expériences qui sont faites dans les fameux accélérateurs de particules. C'est à ça que ça sert, en fait, le CERN ou les choses comme ça. Ça sert à accélérer des particules, soit des protons ou des électrons, à des vitesses relativistes et, en fait, à les exploser sur des cibles et, en fait, de tout casser. C'est comme un crash test pour les voitures, mais version physique fondamentale.
Ouais, les exploser les uns contre les autres aussi.
Ou les uns contre les autres.
Ils tournent chacun dans un sens.
Tout à fait.
En tout cas, c'est là qu'on a découvert ce boson de Higgs.
Voilà, donc pour en revenir à Higgs, en fait, là où il a eu le prix Nobel, c'est parce qu'en fait, il avait prédit de façon théorique l'existence de cette particule dans les années 60. Alors, il n'y avait pas que lui, il y a eu plusieurs personnes, en fait, qui ont, dont j'ai oublié les noms, mais qui en même temps que lui, en fait, sont arrivées à ce type deux conclusions. Et le prix Nobel, d'ailleurs, il l'a eu avec une autre personne. Okay. Il n'était pas tout seul. Mais en attendant, le boson de Higgs portera à jamais son nom. Donc là, pour le coup, je pense qu'en physique théorique, le boson de Higgs, on en parlera encore dans 100 ans, oui. Facilement. Voilà, et pour faire court, il y a un lien entre ce boson et le fait qu'une particule est ou non une masse. Même si c'est qu'une partie de la question de la masse des objets qui sont autour de nous. Voilà, j'y reviendrai dans l'émission parce qu'il y a vraiment des concepts à creuser. Mais en tout cas, voilà, il y a ce lien aussi. Souvent, quand on parle de Higgs, on parle du concept de masse et d'apparition de la masse des particules. Et c'est un peu lié à ce genre d'histoire aussi. Voilà, donc hommage à ce physicien qui nous a quittés ce mois-ci. Axel, tu avais une petite actu aussi dont tu voulais nous parler, un nouveau lanceur russe.
Oui, j'ai vu que les Russes ont lancé ce jeudi 11 avril, pour la troisième fois, c'est toujours en phase d'essai, la fusée Angara A5, qui est leur nouveau lanceur lourd qui est décliné en plusieurs versions. On a la version, par exemple, entre la A1.2 et la A5, c'est des fusées qui sont capables d'emmener en orbite terrestre basse entre 3 tonnes et 24 tonnes de charge utile, de matériel, de satellite. Enfin, voilà.
Ça commence déjà à être
déjà pas mal. Et ils réfléchissent aussi à des améliorations, notamment à changer les moteurs, à alléger certaines parties, des choses comme ça, pour pouvoir amener avec la version A5M jusqu'à 27 tonnes, la A5V jusqu'à 38 tonnes. En orbite basse, et là ça commence à être assez exceptionnel, 38 tonnes. Sachant que chez les autres, par exemple, la Ariane, la future Ariane, l'Ariane 6, elle va amener entre 10 et 20 tonnes. La Falcon 9, c'est à peu près pareil, entre 8 et 22 tonnes. La Soyuz, c'est 10 tonnes. Enfin, voilà. Donc 38 tonnes, c'est pas mal. Alors, c'est pas encore le niveau de la Falcon Heavy de SpaceX qui peut amener plus de 60 tonnes, je crois, en orbite basse. Après, c'est des applications différentes aussi. Hein. On n'a pas besoin d'une Falcon Heavy pour envoyer un petit satellite au-dessus de la Terre. C'est plus pour aller plus loin. Voilà, cette fusée, elle vient en remplacement un peu de tous les vieux lanceurs de l'époque soviétique, en fait, qui servent encore aujourd'hui, les Soyuz, les Proton, les Proton M. C'est des lanceurs pré-Fédération de Russie, époque URSS. Et donc voilà, il faut bien les remplacer. Ils en ont encore une petite dizaine, là, ils disent, de Proton M à tirer, donc ils ont encore le temps avant de se consacrer, enfin, d'utiliser uniquement cette nouvelle Angara 5. Et puis la petite particularité, c'est qu'ils l'ont lancé depuis le cosmodrome de Vostochny, qui est un des nouveaux cosmodromes, c'est comme ça qu'ils appellent leur base de lancement, hein, en Russie. Jusqu'à maintenant, ils utilisaient le cosmodrome de Baïkonour, mais qui se trouve dans l'actuel Kazakhstan. Et ça, c'est pareil, c'est une relique de l'époque soviétique, où le Kazakhstan faisait partie du pays. Et maintenant, ils louent la terre au Kazakhstan. Ils louent cet emplacement pour pouvoir lancer leur fusée de là-bas.
Et un État indépendant.
Voilà. Mmh. Et du coup, ça leur coûte des sous. Donc, ils ont envie d'avoir des sites de lancement chez eux-mêmes. Et donc, ils en préparent deux, là. Enfin, qui sont déjà en route, hein, mais Vostochny, qui est plutôt au sud, d'où vient de partir cette Angara 5, qui va servir au lancement plutôt géostationnaire et équatorial, en tout cas pour des orbites le long de l'équateur terrestre. C'est de là aussi que partiront des cosmonautes, peut-être un jour, c'est prévu pour l'instant pour 2028, hein, c'est pas encore fait. Et puis un cosmodrome, celui de Plesetsk, qui est plus au nord et qui lui servira pour des lancements de satellites polaires en orbite polaire ou circumpolaire, des choses comme ça, voilà, avec des angles orbitaux plus excentriques que les classiques. Voilà.
Ok, bah merci Axel. Je crois que c'est tout pour les actus de cette semaine. On va passer au ciel ce soir. Et est-ce qu'on peut observer en ce moment ?
Eh ben, pour faire le lien un petit peu entre actu et ciel du soir, on a une petite pluie d'étoiles filantes en ce moment. J'ai pu en voir deux la semaine dernière. C'est la pluie dite des Lyrides, parce qu'elle semble venir, toutes ces étoiles, de la constellation de la Lyre, qui se lève au nord-est à 23h, là, par là. Ouais, 23h30. On a cette étoile bien brillante, Vega, une des étoiles les plus brillantes du ciel, avec ce petit carré, petit parallélépipède là, qui est tordu au-dessus d'elle.
Il me semble en avoir vu une là, ce week-end, mais ce que j'ai trouvé d'étoile filante, là, puisque tu parles de pipi. Et ce qui m'a étonné, c'est sa finesse. Enfin, c'était, elle était, la traînée était vraiment très, très fine.
Ok.
Donc, je ne sais pas si c'est une spécificité de ce type de, ou si c'est un hasard, mais.
Je ne sais pas. En
toi,
celles
que tu as vues, elles étaient.
C'est assez classique, mais moi, en tout cas, je suis content. Voilà, c'était les premières étoiles filantes de l'année. Ça fait toujours plaisir, pour moi, en tout cas. Ça a commencé, là, cette pluie, le 14, là, donc c'est tout juste. Ça commence à être significatif à partir du 14. Le pic est attendu pour le 21. Et on ne devrait plus en voir à partir du 30. Et le problème, c'est qu'il y a la pleine lune qui arrive le 25, je crois. Et donc, sa luminosité va forcément masquer les étoiles filantes les plus faibles.
Mais jusqu'au 20, on peut peut-être espérer en voir.
Ouais, voilà. Oui. Pour finir, je peux dire que cette pluie d'étoiles filantes est due au passage d'une comète qui date de 1861, enfin qui a été découverte, cette comète, elle passait avant, hein, je vais vous dire juste après. Mais en 1861, on l'a découverte, donc elle porte ce nom magnifique, c'est 1861 G1 Thatcher. Pourquoi Thatcher? C'est pas Margaret qui l'a découvert, elle n'était pas encore là à l'époque. Non, c'était un astronome amateur américain qui s'appelait Albert Thatcher et qui l'a découvert. Donc quand même un amateur en 1861 qui découvre une comète, c'est pas mal. Et pourquoi je dis qu'elle passait il y a bien plus longtemps que ça? C'est qu'on a des traces écrites des Chinois, des astronomes chinois en moins 800 avant notre ère, quelque chose comme ça. Il y a quasiment 3000 ans. Il notait qu'il y avait des étoiles filantes à cette période de l'année dans cette direction du ciel là au nord-est pour nous. Voilà.
Ça rejoint un peu, ça me fait penser à l'émission là qu'on avait faite avec Vincent là, sur l'archéoastronomie.
Tout à fait.
Une émission épisode 60. On vous renvoie à l'écoute de cette émission qui était assez intéressante. D'accord. Et
sinon, que voir d'autre dans le ciel? Non, tu voulais rajouter quelque chose sur les étoiles filantes? Non. Eh bien, je vais parler un peu des planètes avant de passer aux constellations, mais pour les planètes, Jupiter qui se couche en ce moment à 23h, c'est vraiment la limite pour la voir, sachant que la nuit tombe vraiment à 22h. Enfin, le créneau se resserre pour observer Jupiter.
Et
donc
puis elle est
basse.
Elle est basse de toute façon, donc l'image est.
Basse à l'ouest. Oui, c'est plus à l'œil nu que c'est intéressant qu'au instrument.
Ça turbule pas mal.
Et au petit matin, pareil, c'est très bas, donc c'est mieux à l'œil nu qu'aux instruments. Mais on a Mars et Saturne qui se lèvent à peu près en même temps, vers 5h30. Je crois qu'on a Mars en premier et Saturne juste derrière, un petit quart d'heure après, avant le lever du soleil, voilà, entre 5h30 et 6h du matin. Ces petites planètes qui vont nous manquer hein, quand même cette année, cet été. Voilà, ça ne va pas être la meilleure année 2024 pour observer les planètes. Il faudra attendre le mois d'août pour avoir des assez bonnes visions sur Saturne. Voilà, et puis au niveau des constellations, eh bien on a le Lion qui est au zénith, au méridien, à sa position la plus haute au moment où la nuit se fait bien sombre. Le Lion avec sa forme caractéristique, on en a déjà parlé. On a deux étoiles brillantes qui se lèvent à l'est, un petit peu après, 22h30, 23h. On a Arcturus, dont tu vas nous parler un peu, Fred, avec sa constellation du Bouvier. Et puis un peu plus bas sur l'horizon, mais dans la même zone, Spica, l'épi de la Vierge. Voilà, deux étoiles brillantes qui se lèvent. Et puis on a une constellation, alors là il faut peut-être prendre un peu de hauteur. Pour ceux qui habitent à Die, on a juste un qui va gêner, mais peut-être si on monte sur les remparts ou à plat, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez un horizon sud un peu dégagé, on a une des plus grandes constellations, je me demande si ce n'est pas la plus grande, la plus étendue du ciel, qui est visible en ce moment, très basse, hein. C'est l'Hydre, la constellation de l'Hydre, qui est en plus pas très brillante.
Diffuse hein, quand même.
Ouais. Mais bon, qui a quand même ça pour elle d'être une des plus étendues des constellations, hein, parce qu'elle court de la Vierge, je crois, même un peu avant la Vierge, entre la Balance et la Vierge, jusqu'au Cancer, jusqu'à Procyon, au petit chien. Enfin, voilà. Une sorte de ligne. Ça souligne toutes ces constellations.
De vagues, enfin, ça fait un peu comme un dessin de vaguelette. Un petit peu, là. C'est pas comme C'est pas comme le dragon qui vraiment lui serpente en arrondi. Oui. Là, on est dans quelque chose de plus linéaire quand même sur le livre. Ok, ben moi, avant que tu termines, je voulais juste faire un petit point sur Arcturus parce que les étoiles dont tu parlais là, qui se lèvent, donc Arcturus dans le Bouvier et ensuite l'Épi dans la Vierge, elles sont reliées avec la Grande Ourse. C'est un alignement un peu classique. Si vous prenez le manche de la Grande Ourse et que vous prolongez, alors en fait, l'arrondi. L'idée, c'est de continuer le mouvement de la courbe, en fait. Et là, vous tombez sur Arcturus et puis, en continuant toujours cette même courbe, sur l'Épi. Alors ouais, je voulais vous parler d'Arcturus parce qu'en réalité, cette étoile, déjà, elle est très brillante. Elle a une magnitude qui est juste en dessous de zéro. Donc, on est déjà elle est parmi les étoiles les plus brillantes du ciel. Et elle a cette couleur vraiment orangée. Et en réalité, pourquoi ? Parce que c'est une géante rouge. Et en fait, l'autre soir, je l'observais et je me disais, en fait, cette étoile, quand on l'observe, on observe un peu le futur de notre Soleil. Parce que elles sont assez comparables, elles ont la même masse. Arcturus et le Soleil, à peu de choses près. Arcturus est légèrement plus massif que le Soleil, mais c'est quasiment équivalent. Par contre, son rayon est 25 fois plus grand.
Ah oui.
25 fois, donc ça veut dire qu'elle est beaucoup plus diffuse, mais beaucoup plus grosse, quoi. Et donc, c'est exactement ce qui va arriver à notre Soleil dans peut-être 4 milliards d'années, ou je ne sais pas, autour de ça. En tout cas, la phase de géante rouge, où effectivement, l'étoile va se mettre à grossir, avant d'expulser son enveloppe dans l'espace et de finir en naine blanche. Et détruisant évidemment toutes les planètes telluriques qui sont donc y compris autour, la Terre, etc. Donc voilà, ça on le sait. Donc voilà, observer Arcturus, c'est un peu observer le futur de notre Soleil. Elle est située à 36 années-lumière de nous, donc à l'échelle galactique, c'est vraiment le voisinage. Et elle est âgée de 7 milliards d'années. Voilà, c'était juste une petite
un peu plus vieille
petite réflexion sur Arcturus la prochaine fois que vous l'observerez.
Eh bien. On m'a parlé récemment de ce côté de relativiser en regardant, en observant le ciel. Là, tu parlais d'Arcturus, l'autre fois je parlais avec quelqu'un, on parlait de Jupiter, et qui me disait, imaginons, parce que c'est pas encore fait, mais des humains qui vont vers Jupiter, qui vont pas se poser, ou peu importe, mais qui se rapprochent, la vision, la taille en fait de Jupiter. Déjà, on connaît l'overview effect, l'effet de surplomb, comment dire, reconnu par les astronautes la première fois qu'ils voient la Terre de loin, vue de l'espace. Et ça fait quelque chose. Et c'est vrai que d'avoir un côté grand, je ne sais même pas à quel point c'est grand, même en le voyant. Mais si tu peux voir ça et puis quelques mois après voir Jupiter qui est encore plus grand, alors après c'est à mettre en relation avec la capacité de nos yeux aussi d'angle.
Parce qu'en fait tu n'as aucun repère de distance et donc tu as un diamètre apparent au final. C'est un diamètre apparent l'objet.
Mais si tu te mets à la même distance, tu verras la même zone en fait.
Je pense qu'il faut atterrir pour vraiment prendre la mesure du truc. Tu vois.
Faire le tour.
Tu décolles de la Terre, tu vois comment tu t'en éloignes et quand tu arrives, ça doit faire une impression. Ouais. Parce que le rayon est quand même pas le même.
C'est 11 fois plus grand.
C'est énorme. Ouais. Mystère. Voilà. Après, là, il y a justement, là, ça fait un an qu'elle est partie, là, la sonde JUICE, Jupiter Icy Moon Explorer. Donc elle n'est pas encore arrivée, il me semble. Mais en tout cas, elle y va vers Jupiter et vers ses lunes. Donc on aura, même s'il n'y a pas d'humain là-bas, on en a des images quand même.
Eh bien, je crois que
pour le ciel ce soir, on a fait le tour. Eh bien, on va faire une petite pause musicale dans cette émission. Cette semaine, c'est un morceau de Serge Gainsbourg qui s'appelle Les Sambassadeurs.
Les ambassadeurs sont venus en dansant. Les ambassadeurs sont venus en dansant, armés de tubas jusqu'aux dents.
Les ambassadeurs sont venus en dansant. Les ambassadeurs sont venus en dansant.
y'a pas le feu pour se faire casser la gueule. Y'a pas le feu quand le ciel est bleu. Mieux vaut danser, s'amuser, s'amuser. Les ambassadeurs sont venus en dansant. Les ambassadeurs sont venus en dansant, armés de tubas jusqu'aux dents.
Bon retour dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors après cette petite pause musicale endiablée, on va reparler d'astronomie ensemble. Et cette semaine, dans la rubrique Abrac, on va parler de différents endroits, de différents lieux où l'on peut pratiquer et aussi apprendre l'astronomie amateur. Donc ça consiste en quoi ? Ça veut dire tout simplement apprendre à observer le ciel avec des instruments. Principalement des télescopes, mais ça veut dire aussi apprendre à faire de l'astrophoto, et ça veut dire aussi apprendre à apprendre des connaissances aussi scientifiques ou théoriques sur ce qu'on observe. C'est quoi ces étoiles, qu'est-ce que c'est qu'une galaxie, etc. Et apprendre en fait les bases de l'astronomie, qu'elle soit amateur ou pas en fait. Ce qui fait qu'elle est amateur, c'est parce qu'on observe. Alors c'est un peu étrange. Parce que quelque part, on se dit que les professionnels aussi doivent observer. Mais dans la réalité, quand vous regardez, il y a peu d'astrophysiciens qui sont des astronomes amateurs.
Ouais.
Il y en a assez peu. Il y en a plein qui arrivent là par les maths, par la physique théorique, ouais. par un intérêt pour la matière, mais sans forcément du tout connaître les constellations. Évidemment, il y en a qui font les deux. Mais en fait, c'est deux choses qui n'ont rien à voir et qui sont... Mais voilà, c'est pas forcément les mêmes personnes. En tout cas, nous, on parle d'astro-amateurs et donc de ces endroits. Moi, j'avais envie de commencer par parler en fait, d'un endroit qu'à une époque, j'ai pas mal fréquenté, qui est le géospace d'Anian. Anian, c'est dans l'Hérault, c'est au-dessus de Gignac, au-dessus de Montpellier. Il y a la vallée de l'Hérault qui passe par là. Voilà. Donc, c'est cette région-là. Et là-bas, en fait, dans les années fin 70, a ouvert un observatoire qui était l'observatoire de l'AFA, l'Association française d'astronomie. C'est eux qui avaient en fait lancé ce projet. Alors comment ils avaient eu le terrain, je ne sais pas. En tout cas, imaginez un village, et puis en bordure de village une espèce de colline et en haut de la colline un observatoire. Qui prend toute la place du sommet de la colline, en fait. Et pas très haute non plus. Donc, il y a une petite piste, mais c'est pas trois quarts d'heure de voiture. C'est une petite demi-heure de marche, vous êtes en haut, quoi. Donc, voilà. Et en fait, dans cet endroit... Donc, bien sûr, il y avait des soirées grand public, des choses comme ça. Mais il y avait surtout, en fait, cet endroit accueillait des astronomes déjà... amateurs ou confirmés, qui pratiquaient déjà en tout cas, et qui venaient pour profiter de la qualité du ciel. Même s'il y avait le halo de Montpellier, on avait surtout un temps très sec en fait, qui permettait d'avoir un ciel assez pur et assez noir et pas trop pollué au niveau lumineux. Et donc de profiter des télescopes qui étaient sur place sous coupole. Donc il y avait 4 ou 5 coupoles, il y avait 2 bâtiments. Un bâtiment d'hébergement où en fait les gens pouvaient dormir, il y avait une cuisine, etc. Et puis un bâtiment, on va dire, pour s'assembler, une salle de réunion, voilà, avec une petite bibliothèque, avec les télescopes qui étaient stockés aussi, à l'abri. Et attenant à ça, il y avait un petit labo photo à l'époque, un labo photo argentique.
Oui, oui.
Avec un petit couloir,
une petite salle noire.
Il y avait une salle de développement, une salle de tirage. Okay. Et voilà, donc il y avait tout ça qui avait été monté, construit et qui était entretenu par, au départ même par des bénévoles de l'AFA, enfin par des passionnés d'astronomie, des gens de l'association, et qui petit à petit c'est un peu professionnalisé, on va dire, et on en reparlera. Donc voilà, donc pour décrire un peu ce, voilà, pour la géographie un peu du lieu, il y avait aussi une grande terrasse en fait d'allée sur laquelle on pouvait, devant la salle, devant le bâtiment de réunion, on va dire, et où on pouvait sortir donc les instruments bien à plat tranquillement, et où aussi avait commencé à être matérialisé le système solaire avec une représentation à l'échelle des disques de rotation des planètes, avec même des petites graduations pour chaque mois en fait.
D'accord.
Et donc on voyait aussi on pouvait imaginer les vitesses de rotation comme ça des planètes, faire parcourir aux gens toutes les secondes vous faites un pas et on voit le système s'animer, quoi. Ça c'était aussi intéressant. Donc il y avait plein de petites choses comme ça et qui étaient aussi utilisées pour les soirées grand public. Donc ce lieu il permettait deux choses. Comme je disais, l'accueil d'astronomes amateurs qui pratiquaient déjà. Donc à ce moment-là, c'est comme une sorte de, c'est une sorte de gîte en fait. Hein. Vous y allez, vous êtes en autonomie, vous avez, il y a personne sur le site à part vous en fait. Bon, il y a celui qui entretient le site, la personne qui, un technicien qui répare tout, qui est aussi maçon, qui est aussi électricien, bon, qui fait tout en fait, toute la maintenance du site. Et même les optiques, tout ça. Et puis mais sinon, vous êtes là, voilà, vous avez votre chambre, votre cuisine, vous êtes dans la garrigue, et puis la nuit, vous avez une télescope, vous avez une coupole à disposition, en fait, que vous louez. Et tout ça n'était pas très cher. Donc c'était vraiment chouette, en fait. Je parle de ça parce que des lieux comme ça, à ma connaissance, là, je crois pas qu'il en existe encore, parce que je vais y venir, mais cet observatoire, il a fermé. Mais c'est aussi c'est un peu le but de cette chronique là cette semaine avec Axel, c'est pas tant de vous raconter des trucs super qu'on a fait, c'est de donner des possibles en fait, de dire ça existe, on peut organiser des choses comme ça et c'est vraiment chouette. Enfin, ça va beaucoup plus loin que juste par exemple quand on organise Marignac, c'est super. Mais on est vraiment dans le cadre de la soirée grand public. Ouais. Là, on parle d'un autre truc. On dit, les gens, ils vont à la soirée grand public, que ce soit vous ou vos enfants. Et puis, au bout d'un moment, ils voient deux soirées grand public, trois soirées grand public. Il faut bien dire ce qui est, c'est un peu toujours pareil. Si on veut aller plus loin, si on veut soi-même avoir un télescope entre les mains et apprendre à s'en servir et soi-même faire les observations, il faut un autre cadre. C'est pas aux soirées grand public que vous allez l'apprendre.
Tout à fait.
Donc, cet autre cadre, c'est par exemple ce lieu, et il y en a d'autres, on va en parler dans la suite, où vous venez, il y a des télescopes, et on vous montre. Et puis, pareil, c'est un apprentissage, il ne suffit pas de vous montrer, de voir ça une fois. Là, vous restez une semaine, 10 jours, et clairement, ça rentre. Quoi.
C'est ça.
Clairement, tu repars de là, et t'as vraiment appris à te servir d'un télescope, t'as vraiment appris à te repérer dans le ciel, t'as appris à préparer une soirée d'observation en fonction de ce qui va être visible. Et de ce que aussi tu peux observer avec ton télescope, parce que ça dépend du matériel, hein, on le sait bien quand même aussi. Voilà, sous les coupoles, il y avait aussi un instrument assez particulier qui n'existe plus maintenant, mais c'était un coronographe. Coronographe, c'est une sorte de grosse lunette qui a un disque obturateur en son centre qui permet d'observer en fait la couronne du soleil. Donc on vise, alors il faut que ce soit bien réglé, hein, parce que on est en train de regarder le soleil, donc là il ne faut pas trop rigoler. Maintenant ça marchait super bien et d'un coup on voyait la couronne, ouais. Chose qu'on ne pouvait voir avant que pendant les éclipses.
Oui c'est ça, c'est une éclipse artificielle.
C'est
quoi,
ça. Alors maintenant il y a les filtrages alpha ou d'autres qui permettent en fait à la fois d'observer la surface du soleil et ses taches et ses granulosités et aussi les protubérances et la couronne solaire, mais ça c'est assez récent, ces filtres ça fait 10 ans qu'on peut se les procurer, peut-être 15 mais pas plus quoi.
Oui, pour les amateurs en tout cas, que les prix ont baissé, c'est ça.
Donc voilà le type de proposition. Alors je mentionne quand même le petit labo argentique parce que maintenant on fait toute l'astrophoto a basculé en numérique. Quand je dis maintenant, ça fait déjà un bon moment que toute l'astrophoto a basculé en numérique. Mais là encore, l'argentique, il a son charme aussi. Parce que au lieu de passer son temps à régler des paramètres sur des menus RGBB et compagnie, je ne dis pas que c'est quand même sur cette interface informatique que ça se passe. L'argentique, le développement, il y a un truc un peu sculpture de lumière quand même. Ouais. C'est très artisanal, on est dans un processus physico-chimique qui est matériel. On est dans une ambiance qui n'a rien à voir. En lumière rouge, avec l'odeur des produits chimiques, on va rester quelques heures là-dedans, ça commence à monter un peu à la tête. Et les images qui apparaissent, c'est très chouette aussi. Voilà. Bon. Mais c'est, effectivement, ça n'a plus lieu d'être, sauf pour quelqu'un qui a envie de pratiquer vraiment ça.
Là. Et tu en as encore des photos argentiques que tu as pu faire
J'avais mis une petite photo de la Lune qui me restait, qui illustrait je ne sais plus quel podcast.
Sur l'ancien site.
Mais moi, je n'en avais pas fait énormément. L'astrophoto, j'y ai touché comme ça, mais c'est pas ce que je fais de plus. Quoi. Donc voilà. En tout cas, c'était pour parler de cet endroit. Donc d'un côté, vous voyez, vous arrivez, vous louez la coupole, vous faites votre truc. Ou alors, à l'inverse, évidemment, enfin, pas à l'inverse, mais il y avait aussi des stages qui étaient donnés où vous alliez apprendre. Donc il y avait ces deux... C'était ça qui faisait vivre le lieu. Parce que voilà, c'est aussi ça le sujet de cette rubrique. C'est comment ça vit, ces lieux-là, comment on peut les créer, comment on peut les animer et qu'est-ce qu'on peut y proposer. Et en fait, c'est super vaste. Et il y a plein de choses à imaginer. Ça dépend des territoires, ça dépend surtout des gens, en fait, parce que des compétences qu'ils ont et de la motivation qu'ils ont pour faire tenir le projet. Parce qu'on le sait, des trucs comme ça, c'est toujours à moitié associatif ou... Et pour que ça perdure, en fait, il faut qu'il y ait vraiment un renouvellement aussi des énergies. Au bout d'un moment, c'est n'importe quel asso est confronté à cette problématique-là, en fait, de l'essoufflement, de l'élan originel et de comment, en fait, on arrive à faire perdurer le truc. Quoi. Ouais.
Et là, c'est toujours des histoires de passionnés.
L'histoire des passionnés, mais après, c'est l'histoire d'humains. Donc après, ils rendent des histoires d'égo, des histoires de... Non, mais c'est vrai, d'avidité, d'argent, et plein de choses comme ça. Et je trouve, justement, c'est aussi pour ça que j'avais envie de parler du géospace d'Ariane, parce que sans rentrer les détails, que d'ailleurs, je ne connais pas vraiment, il y a une fin un peu tragique au truc, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la personne qui avait pris en charge cet endroit ou qui le gérait, petit à petit, c'est à essayer uniquement de faire de l'animation grand public et en fait à modifier un petit peu la mission originelle de l'endroit. Et en fait, ça s'est mis à péricliter en réalité, financièrement, mais aussi parce qu'il n'y avait plus les passionnés autour pour le faire vivre. Donc au final, le lieu, il a fermé. Et moi, j'y étais retourné, genre 10 ans après sa fermeture, mais c'était toute la piste, c'était un carnage. Enfin, elle était défoncée complet. Et en haut, ça avait été vandalisé. Il y avait des tags. Il y avait, enfin, tout était pourri en fait. Il y avait, bon, évidemment, plus d'instruments depuis longtemps. Et donc, ce lieu, il est resté des années comme ça, en fait, en mode terrain vague. Mais à garder son charme, parce qu'on n'est pas derrière une gare ou derrière un hangar industriel, on est quand même avec une ambiance de coupole, avec un endroit où il y a un super ciel en plus. Ouais. Voilà. Et ensuite, celui-là a été repris pour faire de l'hébergement insolite. Donc on est complètement dans un délire. Alors là, je sais pas. Donc on va dormir dans la coupole. Alors, je ne sais pas s'ils ont remis des télescopes ou pas. Il y a vaguement une activité. Je crois qu'il y a une asso encore qui est active autour et qui utilise le lieu. Mais c'est tout. Sinon, voilà, l'observatoire, il a été transformé en Airbnb de luxe. Quoi. Bon. Alors ça, c'était à une époque. Je ne sais pas si ça continue, puis ça, c'est pas très important. Mais voilà l'histoire un peu de ce géospace d'Ariane que j'avais envie de vous raconter. Et dans cette optique un peu de... si on a envie d'aller plus loin avec l'astronomie, si on veut que les gens puissent apprendre l'astronomie, il faut un cadre pour ça, quoi. Donc on fait un petit rappel. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait au micro, mais nous à l'Étoile Polaire, donc l'astroclub du Diwa, on n'a pas cette chance d'avoir un observatoire. C'est pas non plus forcément une priorité absolue, mais quand même cette idée surtout d'avoir un club, en fait, d'avoir un lieu où on peut stocker le matériel, le sortir juste devant, pour observer, donc un peu à l'écart de la pollution lumineuse. Évidemment, il faut de l'eau, il faut de l'électricité. Donc, c'est beaucoup de contraintes, en fait. Être à la fois isolé, à la fois avoir un bon ciel et à la fois avoir une sorte de petit confort. On sait que c'est beaucoup de demandes. C'est d'ailleurs pour ça que pour l'instant, on ne l'a pas. Mais on refait un appel si vous avez l'idée d'un endroit ou si vous disposez d'un endroit de ce type et que vous avez envie de faire de l'astronomie, et ben voilà, écrivez-nous à astro@protonmail.com. Bref, donc en tout cas, c'est des endroits qui, pour les gens qui pratiquent l'astronomie, sont vraiment porteurs, en fait, sont à la fois formateurs et à la fois porteurs, parce que sincèrement, vous partez, vous faites des vacances entre copains qui font de l'astro ou entre, en fait, un groupe comme ça, vous partez 10 jours, mais c'est génial.
Ouais.
avec de gros télescopes et la possibilité vraiment d'observer, de faire de belles observations. Pour les passionnés, c'est un plaisir et c'est voilà. Alors, il y a d'autres lieux, enfin, il y a des lieux, puisque celui-ci n'existe plus, qui sont autour de nous, mais ils sont différents. Chaque lieu est différent, fonctionne. À l'époque, il y a aussi la ferme aux étoiles. Je ne sais pas si ça existe encore.
Si, oui, je crois.
Je pense que ouais, si. Ouais. C'est pareil, un endroit où on pouvait apprendre l'astronomie. Il y avait puis Michel, mais avec quand même il y avait un télescope de 1 mètre à l'époque.
Ah, ouais.
Je ne sais pas s'il y est encore. Et voilà, bon, et on va parler un peu plus autour de nous. Autour de nous, on a quand même toujours dans la réserve de ciel étoilé. Là, on en a déjà parlé plusieurs fois, la RIS, sur le plateau du Vercors. Il y a nos amis d'Astriev qui sont à Grèce.
Oui, à Grèce en Vercors, c'est ça. Ouais. au pied du Vercors. Côté Est, et eux c'est une association, donc comme toutes les associations, ils sont toujours contents de recevoir de nouveaux membres et de voir de nouveaux visages et de gens passionnés qui s'intéressent à la même chose qu'eux et qui ont cette envie d'apprendre. Enfin, ça peut être pour ça, ça peut être quelqu'un qui n'a rien à apprendre, je ne sais pas si ça existe, mais
tu ne crois pas,
ils peuvent le penser. En tout cas, je pense que le plus proche, ça doit être ça, à Grèce, de l'autre côté du col de Menai. Mmh. On peut trouver une petite bande de passionnés qui ont un observatoire modeste, mais efficace.
Parce que juste, on peut venir pour apprendre, et on vient pour apprendre des choses, on peut venir aussi juste dans l'idée de, quelque part, de se rincer l'œil.
Ah oui, ils font des
animations. Du pur plaisir esthétique de mettre l'œil au télescope, d'observer le cosmos, sans forcément avoir envie de comprendre l'astrophysique en elle-même ou la physique. Après, sincèrement, bon, ça va souvent un peu ensemble, mais en tout cas, chacun y met le curseur un peu où il veut à l'intérieur de ces deux pôles-là, quoi, en fait.
Tout à fait. Ouais. Mmh. Puis si on va de l'autre côté, en restant dans la Drôme, un peu plus au sud, dans la vallée de, c'est quoi qui coule là-bas, de l'Aigue, à Moidan, on a l'observatoire des baronnies provençales, qui fait beaucoup de choses, qui fait de la science d'ailleurs, qui fait du transit d'étoiles, qui fait de l'observation de comètes, d'astéroïdes. Je crois qu'il y a un scientifique sur place à l'année là-bas. Il y a des animateurs, il y a des animations en grand public auxquelles on peut s'inscrire. Et puis, ils sont assez reconnus là-bas pour avoir des télescopes à disposition, et notamment à disposition à distance. Donc, on peut de chez soi utiliser un télescope de là-bas, alors plutôt pour faire de la photo, du coup. Voilà. Et eux, ils ont des gîtes aussi. Donc, on peut aller sonner là-bas chez Marc Breton et trouver une chambre et rester quelques jours. Il y a des stages qui s'y passent. Je vous invite à aller voir sur leur site si ça vous intéresse. On a aussi l'observatoire de Vaison, la Romaine. Les deux, ils sont à peu près de la même époque, c'est 2013-2014 l'ouverture, donc des installations assez récentes somme toute. Et à Vaison, je ne crois pas qu'il y ait d'hébergement prévu. Par contre, il y a une grosse quantité de télescopes. C'est des coupoles où des toutes petites coupoles à ras-le-sol, c'est un instrument dessous, ça couvre juste le télescope, ça couvre pas l'humain, ça se déplie, ça s'ouvre dans tous les sens, et il y a beaucoup d'instruments chez ce Frédéric qui s'appelle là-bas le gérant, c'est une association qui gère aussi. Enfin aussi, non pardon, c'est une association qui gère, parce qu'à Moidan, c'est une entreprise, pour dire les différentes formes que ça peut prendre aussi, ouais, voilà. Ça peut être un bonhomme, ça peut être deux, ça peut être une quinzaine. Ça peut être, ouais.
Oui, ça peut être sur un terrain privé, ça peut être sur un terrain communal, ça peut être. Il y a plein de formes, parce que là apparemment, du côté de Vaison, c'est la mairie qui a mis à disposition ce terrain pour l'assaut, pour y réaliser ce projet-là. Donc voilà, c'est aussi un petit appel du pied. des fois, il y a aussi des possibilités, mais aussi des volontés et qui créent les possibilités, quoi.
En tout cas, chez les deux que je viens de citer, il y a des stages, des propositions comme ça, de stages pour tout niveau, si on n'y connaît rien, si on y connaît un peu, si on s'intéresse plus à l'observation ou à la photo, ou même à Moidan, si on s'intéresse plus à la science.
Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, justement, c'est de pouvoir faire toutes ces offres-là différentes et donc de pouvoir en fait, toucher tous les gens qui aiment l'astronomie, quel que soit où ils en sont dans leur parcours. À la fois, même quel que soit un peu leur âge aussi, et leurs intérêts, comme tu dis, ceux qui ont envie de plus creuser la photo ou pas. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve intéressant aussi, versus la soirée grand public. Pour moi, la soirée grand public, elle sert aussi à, comme une sorte de base, comme une sorte de porte d'entrée, en fait, dans le monde de l'astro. Et c'est aussi un rassemblement, un plaisir.
Bon, c'est ça. Ouais.
On se retrouve, même si on ne va pas forcément apprendre des choses nouvelles, même si on en apprend toujours, comme tu dis, mais on va quand même observer. Et c'est ça qui compte aussi, c'est ça qu'on cherche à faire.
Ouais.
Donc ça reste de toute façon chouette de faire des grandes soirées comme ça, mais ça ne répond pas à toutes les demandes.
Oui,
on
ne
peut
pas
répondre à ça, ça ne peut pas.
Bah, l'observatoire où je travaille régulièrement, à Céderon, dans le sud de la Drôme.
Oui, parle un peu de cosmodrome.
Le cosmodrome, l'observatoire Claude Tavenier, à la base, c'était, puisqu'on est là pour parler un peu des histoires, à la base, c'était un projet privé, solo, du gérant Denis, qui voulait son endroit privilégié pour lui, pour l'astronomie. Et puis en fait, les différents événements ont fait déjà qu'il s'est entouré d'un ami, Claude, pour l'aider dans ce projet. Et puis finalement, il a décidé de faire quelque chose d'ouvert au public et de partager sa passion, de partager ses observations, son télescope. Il y a deux coupoles là-haut qui sont accessibles. Et le gros de l'activité, bien sûr, c'est les animations en grand public. Mais c'est possible aussi de se rapprocher de Denis ou de moi pour des stages un peu plus privés, pour des cours privés, des cours du soir, on va dire. Mmh. C'est souvent le soir, quand même.
Des cours de nuit.
Ouais, c'est ça. Des cours de nuit, quoi qu'on peut aussi parler du soleil et observer le soleil. C'est pas exclu que, parce que lui, c'est aussi un grand passionné de photos, qu'il se mette à animer et à proposer des stages d'astrophoto, justement, dans les années à venir. Voilà, et puis sinon, bah, pour moi... très personnellement, je trouve que l'endroit où tout a commencé pour moi, et alors je peux parler d'un endroit, cet endroit ça serait Valdrome, avec la rencontre astro-ciel, mais si je veux parler plus généralement, ça serait les star parties, les rencontres d'astronomes qui ont lieu un peu partout en France. Autour de nous, il y a Valdrome, nous on organise un petit peu différent, mais à Marignac.
Alors Star Party, ça fait un petit peu rave et compagnie, mais rien à voir.
Non,
c'est pas une
ambiance
fête,
très
en fait.
Calme. Et là, ça peut être très formateur aussi. La première fois que j'y suis allé, c'était sans télescope, et j'ai pu voir et apprendre, et voilà, dans un cadre, dans une ambiance quand même assez intime, et pas comme on peut retrouver dans un groupe avec 30 personnes.
Et bienveillante.
Ouais, c'est ça.
Enfin, les gens, ils sont contents de partager, en fait.
Oui, voilà. J'étais monté sans télescope, il y a quelqu'un qui m'a proposé de regarder dans le sien, puis de le manipuler même un peu, un gros Dobson 400 mm, c'est pas rien pour commencer.
Déjà un bel instrument, ouais.
Et après, quand je me suis équipé, pareil, j'ai appris le ciel et les techniques d'observation, des choses comme ça, en allant à d'autres rencontres comme ça, d'autres rassemblements, dont un dans les Cévennes, je ne sais plus comment ça s'appelle, à la Nuée Jol, les Nuits du Cosse Noir. En Ardèche, on peut aller à Mars aussi, où il y a une association, un observatoire, l'observatoire Hubert Reeves, où on peut aller se faire la main et rencontrer et tester d'autres matériels.
Il y a l'observatoire de Saint-Michel aussi, à côté de Bannon, Saint-Michel, l'observatoire en Provence.
Tout à fait.
Qui organise quand même, qui en plus, lui... accueille aussi, on va dire, des professionnels, accueillés en tout cas, parce que c'est quand même là qu'a été découvert la première exoplanète, il me semble.
Non, ça c'était...
Observatoire d'autres.
Oui, à l'OHP.
Oui, à l'OHP, l'observatoire de Haute-Provence.
Ah oui, d'accord, pardon. Ah oui, je confonds.
C'est à Saint-Michel l'observatoire.
Oui, pardon, je confondais avec Saint-Véran.
Non. Ouais. Saint-Véran, on n'en a pas parlé, mais oui, Saint-Véran, c'est le plus haut observatoire d'Europe.
Oui.
Donc, parce qu'il y a un très bon ciel là-haut, donc au-dessus de Briançon.
C'est ça.
Je ne suis jamais allé, mais là, c'est sûr qu'il y a aussi cet observatoire et probablement une pratique de l'astronomie à creuser sur ce territoire-là.
J'ai appris aussi dans les grands observatoires, même le plus connu peut-être en France, l'observatoire du Pic du Midi, dans les Pyrénées, où ils ont un télescope, je ne sais plus, c'est peut-être un 400, quelque chose comme ça, ou un peu plus, 400 ou 600, qui est une coupole, du coup, qui est dédiée à l'accueil des associations d'astronomie, des astronomes amateurs. Enfin, voilà.
Ah bon.
Alors, j'imagine que le calendrier est chargé pour avoir une place là-bas.
On va se positionner pour l'année prochaine.
Mais voilà, si vous voulez venir avec nous le jour où on ira, n'hésitez pas à nous rejoindre.
On va creuser cette affaire, et on vous en dira plus quand ce sera plus concret. Ok, on a fait déjà un bon petit tour de... Tu voulais parler de Valdrome, tu avais commencé, mais tu n'avais pas forcément... Tu voulais en dire plus? On peut quand même dire que ça s'arrête.
A priori, rien
n'a encore fait. C'est en train de s'arrêter.
Je pense que,
On a peur que ce soit en train de s'arrêter. Voilà, comme ça, on n'annonce rien.
Exactement. Voilà. Et oui, comme la station est plus rentable depuis longtemps, le département s'en délaisse. Il y a un appel à projet qui a été lancé pour la reprise de ce lieu, des bâtiments et des terrains autour. Et donc, la Société Astronomique de France, qui a organisé depuis 15 ans presque là-bas la rencontre astro-ciel, ne sait pas trop s'ils vont pouvoir continuer.
Être accueillis là-bas.
Oui, continuer à être accueillis là-bas dans ces conditions qui étaient quand même chouettes, quoi, avec ce lieu, avec le restaurant, avec les sanitaires, avec tout ça. Quoi. Se trouver un terrain en altitude, c'est faisable, mais avec toutes ces commodités, c'est plus compliqué. Quoi.
Bah, c'est
avec une route en bon état.
Tout à fait. Et puis un ciel de cette qualité, quand même.
Mais en tout cas, Valdrome. Valdrome ou pas, en tout cas, c'est toutes ces rencontres, toutes ces star parties, je trouve que c'est quelque chose d'assez chouette. Alors, c'est pas un lieu forcément fixe, il n'y a pas forcément d'observatoire, sauf si on va à Mars, par exemple. Mais il y a. Je peux trouver ce côté encore, comme tu disais, où on est une bande de potes astronomes, on va là-bas, c'est ambiance camping, ça mélange un peu ce côté camping, parce qu'il y en a, en plus des gros télescopes, ils ont des gros camping-cars, il y en a qui sont en tente, et en tout cas, c'est une ambiance particulière et plaisante, je trouve. À titre personnel.
Ouais. Et ce que je trouve intéressant dans le cas de Valdrome, c'est que là, tous les autres exemples qu'on a donnés avant, on parle vraiment de lieux physiques. Et là, Valdrome, c'est une sorte de lieu physico-temporel. Quoi. C'est-à-dire que c'est toujours au même endroit, mais ce n'est pas permanent. Ouais. C'est un rassemblement récurrent. Quoi. Donc ça, c'est aussi une idée à creuser, je trouve. Parce que c'est une autre forme aussi de faire, mais qui peut très bien fonctionner, qui est de dire... On n'a peut-être pas l'endroit idéal et tout, mais on a cet endroit, ce terrain qui, à la belle saison, permet d'accueillir les choses.
Et pendant trois semaines,
un mois, on y fait de l'astro et on fait ça tous les ans. Donc, du coup, les gens le savent. Enfin, voilà, c'est aussi une idée à creuser. Et pour ça, je trouve Valdrome, c'est un exemple particulier et intéressant. Voilà.
Très bien.
Qu'on avait à vous partager cette semaine sur le sujet. On espère que ça vous aura intéressé. Et puis on vous dit à la semaine prochaine en vous souhaitant de belles observations.
Et un bon dimanche. Ciao.